RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse. Denise Epoté.
Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Pascal Hérault de l'Opinion et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Au sommaire, les leçons de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, tournée qui a démarré lundi à Ouagadougou et qui s'est achevée le 30 novembre à Accra. En seconde partie, nous reviendrons sur les conclusions du 5e sommet Union africaine-Union européenne tenu cette semaine à Abidjan. À Ouagadougou, où aucun président français ne s'était rendu depuis 30 ans, Emmanuel Macron a choisi d'aller à la rencontre des étudiants de l'université de Ouaga 1. Changement de style et changement de ton face à une jeunesse qui veut écrire une nouvelle page de la relation entre l'Afrique et la France. Le reportage de Denis Vincenti.
Une université, 1800 étudiants, une jeunesse burkinabée très politisée qui, pour certains, sont très remontés contre la France et son passé. Une cinquantaine de jeunes est là, prête à en découdre avec le président.
Nous ne voulons plus voir ces dirigeants venir ici pour nous mentir. Nous voulons la vérité. Que nos dirigeants sachent qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin de décisions. Aujourd'hui, vous voyez des milliers de migrants en train de mourir. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, on en a marre.
Emmanuel Macron qui se dirige vers ce qui Merci pourrait beaucoup. Être un ring, il est décontracté.
Ah, monsieur le chef, c'est monsieur le chef du protocole. Monsieur le chef du protocole, venez.
Un public particulièrement attentif qui, au terme du long discours, s'adresse au président. Tous les thèmes sensibles sont abordés. Le franc CFA, les dossiers judiciaires impliquant notamment le frère de l'ancien président Compaoré ou les documents secret défense liés à Thomas Sankara. Au terme de cette rencontre franche, les avis sont toutefois partagés.
La rupture avec le passé, avec le colonialisme, avec les autres présidents français, c'est cette rupture que j'ai retenue de lui, cette confiance qu'il a en la jeunesse africaine.
Pour que l'Afrique prenne son destin en main, il faut que l'Afrique ait cette capacité de pouvoir gérer elle-même ses ressources.
C'est au terme d'un discours de 2h40 et des échanges avec des universitaires assez remontés que le président de la République a quitté l'université, soulagé. Pour lui, une page est tournée dans les relations entre la France et l'Afrique.
Hassan Diop.
Sur la forme, je trouve qu'effectivement, il a réussi son coup. Et lorsque, dans l'illustration du sujet, on a entendu une jeune femme dire que, ou peut-être avant elle, un jeune étudiant dire que, voilà, nous voulons de nos dirigeants africains qu'ils prennent leurs responsabilités, etc., etc., ça veut dire que Emmanuel Macron a mis le doigt sur un certain nombre de problèmes, sur aussi les défaillances des chefs d'État africains. Disons qu'Emmanuel Macron, après d'autres d'ailleurs, a mis en lumière un certain nombre de certaines faiblesses ou des défaillances dans le comportement des dirigeants africains à assumer leurs propres responsabilités, y compris fixer cette jeunesse en Afrique plutôt que de choisir une voie désespérée qui est la migration. Nous allons y revenir.
On reviendra sur...
Voilà. Alors, sur le fond, évidemment, tout le monde l'a compris, Emmanuel Macron a plutôt mis en avant, en tout cas à Ouagadougou, plus les aspects économiques, de développement, les aspects migratoires, les aspects connexes se rapportant à la démographie. Il a été beaucoup plus prudent que lors du G20 à Hambourg le 8 juillet dernier, où il avait parlé de défis civilisationnels à propos du nombre d'enfants pléthoriques par femme. Là, il a été beaucoup plus astucieux. Il a dit, mais mettez-vous à la place de ces femmes, quoi, qui passent quasi la moitié, sinon davantage, de leur vie à avoir des enfants et à les élever.
Louis Magloire Kemayou, vous rentrez de Ouagadougou. Que retiendrez-vous de cette étape du président Macron?
Je retiendrai, comme disait votre correspondant à Ouagadougou, qu'on s'attendait à un ring. Le Burkina Faso a été choisi pour ce que sa jeunesse a eu de courage, le courage de réaliser. Mais elle a brûlé tout cela par les deux bouts lors de cette rencontre à Ouagadougou, parce que à l'université Joseph Kizerbo, je m'attendais à une meilleure préparation de la part des étudiants. Les questions ont été bâclées. On est parti sur une passion, sur des envies de défis ou de complexes qui n'avaient aucun sens, des commentaires, des développements qui devait être réservé à l'autre qui était là. Du coup, le grand oral de Emmanuel Macron s'est transformé en leçon magistrale. Mmh. Il est venu
mais
dispenser...
Mais la presse de Kinabé a quand même titré le grand oral réussi. Hein,
pour... Absolument, il est réussi. Vu de l'extérieur, c'est une grande réussite parce que le président Macron et tous les services qui ont préparé la visite ont été très habiles dans la préparation. De l'autre côté, il y a eu de la part des autorités burkinabé, probablement un manque de préparation également. Disons les choses honnêtement, on sait qu'ils ont bien accueilli le président français, ils lui ont déroulé le tapis rouge, mais de leur côté, je pense qu'il y a eu beaucoup d'effacement de la part du président Kaboré.
Et comment vous expliquez cela ?
Je l'explique probablement par le fait qu'il se disait qu'il reçoit un hôte et qu'il doit le mettre en confiance et qu'il doit éviter, au-delà de ce que l'on remarque déjà, de la tension qu'il y avait dans la population par rapport à cet accueil, qu'il ne doit pas en rajouter et que pour ça, il devait lui laisser la place pour qu'il arrive à développer ses idées, à aller vers les étudiants, à aller vers les écoliers puisqu'il est allé voir également une école et que pour toutes ces raisons-là, il ne devait pas prendre la parole, ce qui est maladroit. L'interprétation que nous avons eue, par exemple, sur le climatiseur qu'il a été réparé, il est sorti pour des besoins plus naturels que cela. Et du coup, ça a été interprété comme une volonté pour lui de marquer sa désapprobation par rapport au discours de Macron, ce qui n'en est rien. Il est satisfait de cette tournée.
Ça a été aussi perçu comme une faute protocolaire. Hein.
Aussi. Diplomatiquement, ce n'était pas très élégant de
Pascal
la part
Héro,
de M. Macron.
Au Burkina Faso, Emmanuel Macron a accédé à deux demandes, la levée du secret défense sur les archives à propos de l'assassinat de Thomas Sankara et l'application du mandat d'arrêt international émis à l'encontre de François Compaoré. Satisfaction du côté ouagalais.
Satisfaction, mais il va falloir attendre maintenant parce que apparemment le président a dit que toutes les archives allaient être déclassifiées. Mais est-ce que les archives de la DGSE est-ce que le seront vraiment
dans la limite du secret militaire.
Dans la limite du secret militaire, ouais. Ça veut tout dire. Voilà. Sur l'extradition de François Compaoré, c'est la justice française qui va se prononcer. C'est pas le président français qui prend François Compaoré et qui le livre aux autorités burkinabées. Et c'est un problème très délicat à gérer.
Voilà, il a aussi. Oui, je voudrais compléter ce que vient de dire Pascal. Emmanuel Macron a également promis d'intervenir sur la restitution du patrimoine culturel africain, etc., que ce soit du domaine privé ou du domaine public. Là aussi, il ne pourra pas décider seul. Il y a des codes, il y a des lois du marché, de la propriété privée. On ne peut pas dépouiller comme ça, même si on est président de la République, un musée national. Il y a des règles, etc. Donc je crains que ce ne soit une promesse difficile à tenir de ce point de vue-là.
Un mot sur l'étape ghanéenne, Pascal Hérault.
Bon, l'étape ghanéenne, ce qui est intéressant, c'est que c'était d'habitude une étape qui était réservée au président américain. C'est un pays important dans la zone. Et c'est un pays dans lequel tous les projets économiques de Macron peuvent se retrouver. Vous avez bien vu que pendant sa tournée aussi, il a dragué les investisseurs. On va changer de stratégie.
Alors, une étape économique, alors l'étape ghanéenne.
Non, pas seulement économique, justement. L'étape du Ghana, c'était aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'aborder les choses qui fâchent.
De saluer une démocratie.
Voilà, hein. Et qu'il n'a pas abordé vraiment de manière frontale à Ouaga, c'est-à-dire il a fait l'éloge des élections transparentes, l'éloge également de l'idée selon laquelle les dirigeants doivent être sur la même longueur d'onde que leur population. Entendez par là qu'ils préconisent plutôt de jeunes dirigeants sur un continent où la majorité de la population est constituée de jeunes.
Même si Nana Akufo-Addo n'est pas un jeune dirigeant. Hein.
Même si Nana Akufo-Addo n'est pas un jeune dirigeant, absolument.
Lui, Magloire Kamayou.
Il a rappelé sur le terrain de la jeunesse que 70% de la population africaine aujourd'hui a moins de 35 ans.
Voilà.
Donc c'était un élément très fort pour lui. Il a aussi rappelé que la place de la femme est très importante et que dans le volume de bourses qu'il accordera désormais pour les pays comme le Burkina, il y aura une très grande place réservée aux filles, ce qui n'est pas rien sur le terrain de la formation.
Un dernier mot, Pascal Hérault.
Ouais, moi ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment un discours amoureux. C'était une ode à la jeunesse africaine, une ode à la femme africaine. Ça faisait partie de la stratégie qui avait été mise en place par ses conseillers à l'Élysée, la direction Afrique. Et on peut dire qu'il y a 75% du pareil qui a été réussi. Maintenant,
il faut transformer l'essai.
Il faut transformer. Exactement. C'est la réalisation qui va être importante. Il y a des bonnes intentions, il y a des gens qui travaillent. Et il va y avoir aussi certaines forces centrifuges. Parce que, parler des questions de démocratie, il va y avoir le dialogue, la conversation avec un certain nombre d'États, à mon avis, va être difficile. Parce qu'ils connaissent la stratégie, ils savent que le président il va travailler autrement. Vous n'avez pas eu aucune déclaration sur les changements anticonstitutionnels.
Ah non, du tout.
Par contre, Maintenant, on va travailler sur la jeunesse, on va travailler sur le numérique. C'est une lame de fond, on va travailler par le bas. Et ça, je pense que beaucoup l'ont pressenti aussi, parce qu'il les a mis devant leurs responsabilités.
Il a beaucoup renvoyé la balle dans le camp des présidents africains.
Ah, oui.
À chaque fois qu'une question lui était posée qui relevait de la souveraineté,
il prenait à témoin.
Oui.
Voilà. Emmanuel Macron peut établir le plus beau diagnostic du monde sur l'état de l'Afrique, sur son futur, etc. Mais c'est aux Africains à décider de leur sort, à commencer par leurs dirigeants.
À Abidjan, où ils étaient réunis depuis 2 jours, les 80 chefs d'État ont adopté une déclaration comprenant 4 engagements majeurs, portant sur l'éducation, les opportunités pour les jeunes, la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Le reportage de Simon Rodier.
Le sommet accouche donc de grandes manœuvres à venir. Ce sont des promesses qu'ont avancé les chefs d'État à l'issue des rencontres. Mais décidément, ces images du reportage de CNN sur la vente d'Africains en Libye ont clairement poussé à la réaction. Première urgence, l'évacuation des plus vulnérables.
Le président Macron nous a informé que le roi du Maroc a décidé de mettre des avions à la disposition de la task force pour aller chercher immédiatement les réfugiés. Nous avons demandé que l'Union européenne appuie les efforts du Maroc pour qu'on puisse rapatrier le plus rapidement possible les 3800 qui sont sur la route de l'aéroport.
3800 évacuations dans quelques jours ou quelques semaines, mais il reste plusieurs dizaines de milliers d'Africains coincés en Libye. Deuxième annonce, l'envoi d'une task force policière sur le terrain, européenne et africaine, à laquelle s'ajouterait le gel des avoirs et les sanctions financières des trafiquants connus.
Pour arrêter ces phénomènes, il faut naturellement remonter à ces filières, remonter à leurs sources de financement. Et je crois que cela nécessite la coopération de tous les États du monde. Il faut identifier ces gens, il faut tarir les ressources et il faut les traduire en justice.
Pour boucler la boucle, les dirigeants européens et africains veulent poursuivre ce qu'ils appellent l'aide au retour. Aujourd'hui, des migrants sont poussés à retourner chez eux via notamment l'Organisation internationale des migrations. Ici, des Camerounais sont revenus au pays avec un peu plus d'une centaine de dollars chacun pour les aider à la réinstallation et les aider à oublier.
Ne prenez pas la route de la Libye parce que c'est pas du tout joli à entendre. C'est pas joli à vivre, c'est pas joli à voir. C'est un pays où Dieu n'existe pas.
Enfin, la communication dissuasive auprès des candidats au départ doit être renforcée. Il faut aussi promouvoir une éducation de qualité. Il faut rendre la croissance économique efficace pour les peuples. Il faut reconstruire l'État libyen. Bref, des annonces, des projets, beaucoup d'annonces, beaucoup de projets. Il ne reste qu'à attendre les faits.
Attendre les faits, Hassan Diop.
Oui. Il y a beaucoup de promesses, souvent. En règle générale, on compte sur 10% des promesses et à peine. Effectivement, il convient de passer aux actes. On connaît très bien les difficultés auxquelles l'Europe fait face. Tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Les 27 sont loin, tous, dans leur grande majorité, d'être attentifs à l'Afrique. Soyons clairs, je pense qu'il y a des engagements qui ont été pris et votre journaliste a bien raison de poser la question quand est-ce que passer à l'acte. En revanche, il faudra retenir effectivement cette rencontre autour du sort des migrants subsahariens
Libye.
En Libye. Là aussi se pose le problème, comment passer à l'acte. C'est vrai que bon, ceux qui sont bloqués à l'aéroport, on va les aider à revenir, mais comment traquer ces filières esclavagistes, comment traquer ces filières de passeurs dans un pays chaotique, dans un pays que se partagent des groupes armés. On nous parle de task force, mais comment cette task force va agir? Ce sera avec des Africains, ce sera avec des Européens.
Avec l'ONU, etc. L'Union africaine et l'Union européenne.
D'un autre côté, vous avez le jeu de l'Italie qui est de mèche avec certains groupes armés pour endiguer cette immigration vers son territoire. Donc, ce sera très compliqué.
Lui-même, Kamayou, sur le plan sécuritaire, la création d'un centre de formation à Abidjan, une réponse concrète aux questions du terrorisme?
Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas de cela que manque l'Afrique. Les officiers ont été formés, la plupart ont été formés dans des écoles qui ne sont pas les pires, Saint-Cyr et autres, les grandes écoles américaines. Je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, la question, elle est celle de répondre à des besoins concrets des populations, ce qui permet d'avoir à la fois leur confiance et surtout d'avoir la capacité de lutter contre le mouvement. Parce que vous aurez beau, le président Macron l'a promis lors de cette rencontre à Ouagadougou, il a dit qu'il allait faire remonter l'aide publique au développement. C'est une promesse qu'il a faite. Voilà. C'est très bien. Mais l'aide ne suffira jamais. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que les agriculteurs africains, par exemple, qui sont confrontés au marché européen ou américain, avec une vraie, véritable différence dans la manière dont sont soutenues ces agricultures-là, veulent vendre leurs produits. Non seulement ils ne peuvent pas les vendre, mais ils sont attaqués sur leur propre territoire par ces produits-là. Et l'Europe, qui est venue à la rencontre avec l'Union européenne, n'a rien dit là-dessus. Les accords de partenariat économique qui vont être signés vont contre tout cela. Donc, que vous augmentiez l'aide publique, même de 100% ou de 400%, tant que vous détruirez les emplois et la solidarité sur place, les tissus de l'industrie agroalimentaire, vous n'arriverez à rien. Et je pense que c'est cela aujourd'hui qu'il faut réaliser plutôt que de construire de nouvelles écoles de défense.
Encore. Et là, je reviens à ce qu'on disait à propos du passage de Macron à Ouagadougou. On renvoie la balle aux dirigeants africains. Comment se fait-il qu'un pays, et c'est admirable d'ailleurs, qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui sort de traumatismes, de guerres, de conflits, etc., avec plus de 8% de croissance, ne parvient pas à fixer sa propre population. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas une croissance inclusive. Ça veut dire que c'est le business qui gagne de l'argent en Côte d'Ivoire et que cet argent ne redescend pas. Il n'y a pas ce fameux ruissellement dont parlent les économistes en disant voilà, si les gens s'enrichissent, s'il y a plein de millionnaires, eh bien, ça descendra à un moment donné sur les plus pauvres. Or, ce n'est pas le cas. Là aussi, il faut que les dirigeants africains mettent en priorité le bien-être, les problèmes sociaux, l'éducation, effectivement, mais pas seulement, mais aussi donner du travail, fixer les jeunes populations.
Et redistribuer.
Redistribuer. Ça veut dire d'autres rapports avec ceux qui investissent aussi en Afrique.
Quelles sont donc les priorités de la jeunesse africaine aujourd'hui, Pascal
Hérault ? Les priorités, c'est le secteur informel qu'il faut essayer de formaliser, c'est le soutien au PMI, c'est l'industrialisation du continent, c'est tous les secteurs d'activité qui vont permettre de créer des emplois sur place, et pas simplement de fabriquer des produits qu'on va exporter à l'étranger. C'est aussi le développement des marchés régionaux, l'intégration africaine des marchés, c'est 13% en Afrique. C'est scandaleux, c'est la zone du monde la moins intégrée. Vous avez en Afrique centrale, vous avez encore des problèmes de circulation d'un pays à un autre.
Ça a été levé maintenant.
Ça a été levé au niveau de la CEMAC. Hein. Ça vient d'être levé.
Du fleuve Congo, on est encore obligé de passer par l'infrastructure du beach et on est encore contrôlé. Oui. C'est pas normal.
Bien sûr. Et puis les infrastructures ne permettent pas de circuler, des échanges commodes entre pays, etc.
Oui. Mais pour les opportunités à offrir aux jeunes, Emmanuel Macron pense surtout au numérique.
Il pense au numérique, mais il n'y a pas que le numérique dans la vie. Et la plupart du temps, on est très loin du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que moi je pense, c'est que la neutralisation tous azimuts des barrières douanières sur le continent africain doit être arrêtée. Elles n'ont fait que du mal sur le continent africain. Arrêtons cela. Ça ne marche pour personne. Les privatisations et les abaissements de barrières douanières, des tarifs douaniers pour attirer les investissements n'ont rien produit. Ça fait plus de 40 ans que nous expérimentons ces politiques. Elles n'ont rien apporté. Que des larmes et du sang. Et du terrorisme aujourd'hui. Donc, il faut répondre à ces besoins sociaux concrets, à ces besoins économiques avant de penser à l'aide.
Monsieur, juste un mot sur les barrières. Moi, c'est pas les barrières qui me dérangent le plus.
Non, mais
c'est tout ce qui rentre sous le manteau. Et c'est tous les frais non officiels qui sont prélevés sur toutes les transactions. La corruption des forces de sécurité. Quand il y a des pays, encore comme le Cameroun, quand vous voulez faire débarquer une marchandise à la douane, vous avez une petite ligne, TEL, taxe extra légale. C'est à peu près 10 ou 15%. C'est pas normal.
Mais il n'y a pas que ça, Pascal.
C'est des sous qui grèvent.
Il n'y a pas que ça, Pascal. Il y a ce que moi j'appelle des contrats de dupes que la plupart des pays africains exportateurs de matières premières sont obligés de signer avec des compagnies étrangères, que ce soit surtout dans le domaine minier. Je veux dire, c'est au détriment des intérêts de ces pays. Ça favorise la corruption. Vous avez des ministres, vous avez des relais qui préfèrent encaisser 20 millions d'euros, alors que si le contrat avait été signé dans les règles, ça aurait rapporté à l'ensemble du pays 200 millions d'euros et donc injecté dans l'éducation, injectée dans d'autres secteurs. Je crois que justement là où il y a une part de responsabilité chez un monsieur Macron, chez les autres Européens et les partenaires étrangers de l'Afrique, c'est d'amener les investisseurs aussi à respecter les règles qu'ils respectent dans leur propre pays.
Ça sera le mot de la fin, c'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Pascal Hérault de l'Opinion et Louis Magloire Kemayou du Club de l'Information Africaine. Vous pouvez réécouter et revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.